Bonjour à toutes et à tous. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du jeudi 29 août 2024. En direct de Washington, Rosine Monezero. Pour commencer, les titres. En Gambie, le ministre de la Justice a défendu hier devant la presse un nouveau projet de constitution jugé indispensable pour la stabilité du pays. En Haïti, des milliers de jeunes se ruent vers l'armée alors que la violence généralisée des gangs crée de rares opportunités d'emploi dans le pays. Paris a lancé hier soir ses premiers Jeux paralympiques avec une cérémonie hors stade. Et dans notre partie magazine, l'armée congolaise et celle de l'Ouganda ont remis hier à la MONUSCO et à la société civile 49 otages qu'elles ont libérés des mains de rebelles ADF.
La plupart sont des dépendants et des enfants, donc ils n'avaient pas d'une manière régulière touché à l'arme. C'est ainsi qu'on a décidé de remettre les enfants à la MONUSCO.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. En Gambie, le ministre de la Justice a défendu hier devant la presse un nouveau projet de constitution. La réforme qui devrait être votée en 2025 est jugée indispensable pour la stabilité du pays. Le point avec Dili Diko.
Ce projet vise à remplacer la constitution de 1997 qui a permis à Yahya Jammeh de consolider sa mainmise sur la Gambie. La commission de révision de la constitution instituée en juin 2018 a publié son premier projet en novembre 2019. Il a été rejeté par les députés en 2020 en raison du caractère rétroactif de la limitation à 2 du nombre de mandats de l'actuel président Adama Barrow. 4 ans plus tard, le gouvernement souhaite lui donner une seconde chance après avoir retiré la clause de rétroactivité de la limitation de mandat, ce qui signifie que le président Adama Barrow pourrait effectuer 2 nouveaux mandats à partir de l'adoption de la nouvelle constitution. Nous regrettons de n'avoir pas pu respecter notre calendrier. La constitution devrait être en place dans le courant de l'année 2025 si elle franchit toutes les étapes du processus, a déclaré Daouda Diallo, le ministre de la Justice. Le texte doit d'abord passer au Parlement avant un éventuel référendum.
Au Gabon, le gouvernement de transition mené par le général Brice Oligui Nguema va célébrer en fanfare jeudi et vendredi le premier anniversaire de la chute de la dynastie Bongo après 55 ans de règne. Un an après avoir déposé le président Ali Bongo Ondimba, le nouvel homme fort du Gabon qui a promis de rendre le pouvoir aux civils semble déjà en campagne pour l'élection présidentielle fixée à août 2025. Toujours au Gabon, le ministre de la Justice a annoncé avoir ordonné le retour en détention provisoire de 2 jeunes violeurs et meurtriers présumés après une vague d'indignation sur les réseaux sociaux liée à la révélation de leur libération. Les 2 hommes ont bénéficié d'une mesure de liberté provisoire accordée par le juge d'instruction en date du 22 décembre 2023, a détaillé le ministre de la Justice, Paul-Marie Gonjou, dans un communiqué mardi. La Namibie prévoit d'abattre 723 animaux sauvages, dont 83 éléphants, pour distribuer la viande aux personnes qui ont du mal à se nourrir en raison d'une grave sécheresse. Le ministère namibien de l'Environnement a annoncé ce plan national de lutte contre la famine. Le point avec Nani Talani.
L'abattage aura lieu dans les parcs et les zones communautaires où les autorités estiment que le nombre d'animaux dépasse les pâturages et ressources en eau disponibles. Le sud de l'Afrique est confronté à la pire sécheresse depuis des décennies et la Namibie a épuisé 84% de ses réserves alimentaires en juillet, selon l'ONU. Dans ce contexte, 83 éléphants provenant de zones identifiées seront abattues et la viande sera allouée au programme de secours en cas de sécheresse, a déclaré le ministère de l'Environnement. Le pays prévoit aussi d'abattre 30 hippopotames, 60 buffles, 50 impalas, 100 nous bleus, 300 zèbres et 100 élans. Des chasseurs professionnels et des entreprises contractées par le gouvernement ont déjà abattu 157 animaux, ce qui a permis d'obtenir plus de 56 800 kilos de viande. Cette mesure est nécessaire et conforme à notre mandat constitutionnel selon lequel nos ressources naturelles sont utilisées au profit des citoyens namibiens, a déclaré le ministère de l'Environnement.
L'Éthiopie a estimé mercredi qu'une nouvelle mission dirigée par l'Union africaine en Somalie pourrait aggraver les tensions dans la Corne de l'Afrique après l'envoi par l'Égypte d'une aide militaire à ce pays en proie aux attaques des islamistes Shebab. Cette nouvelle mission, baptisée Mission de soutien et de stabilisation de l'Union africaine en Somalie, doit prendre le relais d'une autre mission, l'Artemis. Mission africaine de transition en Somalie à partir de janvier 2025. Cette mise en garde intervient après que l'Égypte, à couteau tiré avec l'Éthiopie depuis des années, a envoyé du matériel militaire à la Somalie. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a demandé mercredi à sa ministre de la Justice de s'expliquer sur des accusations de corruption alors que de plus en plus de voix s'élèvent pour demander sa démission. Thembi Simelane aurait reçu un prêt inapproprié de plus de $28 000 pendant son mandat de maire de Polokwane, la capitale de la province de Limpopo, dans le nord-ouest du pays, entre 2014 et 2021. Plusieurs partis politiques ont demandé la démission de la ministre et une enquête rapide sur cette affaire. L'Union européenne condamne une attaque terroriste qui a fait samedi des centaines de victimes, principalement civiles, dans la région du centre-nord du Burkina Faso, a déclaré mercredi son chef de la diplomatie, Joseph Borrell, dans un communiqué.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Haïti, des milliers de jeunes se ruent vers l'armée alors que la violence généralisée des gangs crée de rares opportunités d'emploi dans le pays. Au moins 3000 personnes ont été sélectionnées en août et invitées à soumettre des documents personnels dans l'attente d'une batterie de tests. Alexandrine Rolognon.
Les jeunes haïtiens répondent à l'appel du gouvernement qui cherche à reconstruire une armée pour faire face aux gangs. Le gouvernement n'a pas indiqué le nombre de soldats qu'il entend engager, ni le nombre de candidats qui ont postulé, mais les documents publiés en ligne par le ministère de la Défense montrent qu'au moins 3000 personnes ont déjà été sélectionnées à la mi-août et qu'il leur a été demandé de soumettre des documents dans l'attente des tests physiques et mentaux. Ces nouvelles recrues doivent travailler avec la police haïtienne et une mission soutenue par l'ONU et dirigée par le Kenya qui a envoyé jusqu'à présent quelques 400 policiers en Haïti pour aider à réprimer la violence des gangs. L'armée américaine a déclaré vendredi qu'elle allait livrer 24 véhicules blindés supplémentaires aux militaires kényans déployés dans le pays. Des policiers et des soldats venus du Bénin, du Tchad et de la Jamaïque devraient arriver dans les mois à venir pour faire une force de quelques 2500 personnes.
Paris a lancé hier soir ses premiers Jeux paralympiques avec une cérémonie hors stade. La compétition qui commence aujourd'hui va durer 11 jours dans et devant les plus beaux monuments de la capitale. Claire Mangibourg.
Les organisateurs ont eu la même ambition que la cérémonie des JO du 26 juillet, saluée mondialement. Une majorité des 4400 athlètes représentant 168 délégations ont défilé entre les Champs-Élysées et la place de la Concorde devant quelques 15 000 spectateurs. Les organisateurs ont voulu une cérémonie militante qui, à l'image de ces Jeux, démontre que la place des personnes en situation de handicap doit évoluer dans nos sociétés. La couverture de l'événement sera importante avec 165 chaînes de télévision qui suivront l'événement, un record. Les premières compétitions et les premiers podiums auront lieu aujourd'hui en paranatation, taekwondo, cyclisme et tennis de table. Les Jeux paralympiques vont se dérouler jusqu'au 8 septembre.
Les opérations militaires israéliennes en Cisjordanie risquent d'aggraver une situation déjà catastrophique dans le territoire palestinien, ont averti les Nations Unies. Les forces israéliennes ont éliminé 9 terroristes armés à Jenin, Toubas et Tulkarem, dont 7 dans des raids aériens, a annoncé l'armée. Les opérations israéliennes dans ces villes portent à 637 le nombre de morts en Cisjordanie depuis le 7 octobre. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. À présent, la Minute Éco avec Nani Talani.
Au Sénégal, le début de l'exploitation du gaz naturel devrait démarrer au cours de ce second trimestre de 2024 pour le gisement de Grande Torture à Meïm, à la frontière avec la Mauritanie. Dakar a démarré en juin sa production pétrolière dans le champ de Sangomar, où opère le groupe australien Woodside Energy. Les autorités ghanéennes ont interdit temporairement l'exportation de céréales, notamment de maïs, de riz et de soja, afin de garantir l'approvisionnement intérieur. Le Ghana est confronté à une quasi-sécheresse qui a perturbé sa production agricole, selon le ministère de l'Agriculture. Le ministère va combler le déficit avec les réserves de la CEDEAO, les importations de céréales et les partenariats du secteur privé. Pour terminer, le FMI a conclu un accord avec le Libéria pour un nouvel arrangement de crédit élargi de 40 mois d'un montant de 209 millions de dollars, indique l'institution dans un communiqué. Cet arrangement est soumis à l'approbation du conseil d'administration du FMI qui précise que la discussion du conseil est prévue pour le 25 septembre.
Place maintenant au sport avec Yakuba Ouedraogo. Bonjour Yakuba.
Bonjour Rosine, bonjour à tous.
Ouverture hier des Jeux paralympiques à Paris.
Oui, comme pour la cérémonie d'ouverture des JO, la première de l'histoire au stade, celle des Jeux paralympiques s'est déroulée elle aussi en dehors d'une enceinte sportive. La plupart des athlètes ont défilé entre les Champs-Élysées et la place de la Concorde dans un spectacle intitulé Paradoxe. Au total, les quelques 4 400 sportifs originaires de 182 délégations vont s'affronter dans plus de 500 épreuves pendant les 11 jours de compétition paralympique. Les athlètes entrent en scène ce jeudi pour la première journée de compétition avec des médailles en jeu dans plusieurs sports, dont le paracyclisme et la paranatation. La cérémonie de clôture est prévue le 8 septembre au Stade de France.
Justement, parmi les athlètes africains attendus, une paranageuse ougandaise qui vise la gloire en France.
Son nom, c'est Usna Kukundakwe et elle rêve de médailles aux Jeux paralympiques. Née sans main droite, la nageuse paralympique Usna Kukundakwe s'est préparée comme elle peut pour ces Jeux, malgré des conditions difficiles d'entraînement à Kampala. Suivez ce reportage. Usna Kukundakwe se prépare à une nouvelle journée d'entraînement en vue des Jeux paralympiques de Paris. Le parcours qui l'a mené à son statut actuel de médaillée d'or a commencé à l'âge de 5 ans, alors qu'elle nageait dans les eaux de Kampala.
I was born with my disability.
Je suis née avec mon handicap. Je n'ai pas de bras inférieur droit et 3 doigts complets. Bien sûr, je n'ai pas réalisé que j'étais différente avant l'âge de 5 ans, car lorsque j'étais à la maison, mes frères et sœurs, mes cousins et toute ma famille me traitaient comme si je n'étais pas différente d'eux.
La jeune fille de 17 ans explique que ce sport lui a permis de développer sa force physique et l'estime de soi. Il a aussi aidé à faire face aux regards et aux plaisanteries dont elle était souvent l'objet.
La natation est un sport où il faut se déshabiller complètement et s'exposer au monde. Alors j'ai fini par m'habituer à ce que les gens me montrent du doigt.
En 2018, Kukundakwe a remporté sa première médaille d'or aux 100 mètres du Korean Paralympic Youth Camp. Depuis, elle a remporté des médailles dans diverses catégories de natation et a réalisé un record personnel dans le 100 mètres brasse aux Jeux Paralympiques de Tokyo en 2021. Kukundakwe dit qu'elle est confrontée à un défi supplémentaire, le manque d'installations d'entraînement disponibles comme dans d'autres pays.
Ici, nous nous entraînons dans des piscines de 25 mètres pour ensuite participer à une compétition dans une autre de 50 mètres. Ces gars-là se sont entraînés dans cette piscine tous les jours de leur vie.
Bien qu'elle se soit qualifiée pour 6 épreuves aux Jeux paralympiques de Paris, Kukundakwe ne se concentrera que sur 3 épreuves principales.
Mon entraîneur et moi avons discuté et nous nous sommes rendus compte qu'il n'était pas nécessaire de participer à toutes ces épreuves. Nous avons donc choisi les 3 auxquelles je voulais participer et où j'ai beaucoup plus de potentiel.
En 2022, Kukundakwe a permis à l'Ouganda de remporter ses premières médailles internationales en paranatation et a représenté son pays en tant qu'unique paranageuse aux Jeux du Commonwealth de Birmingham. Des exploits qu'elle rêve de pousser le plus loin possible à Paris.
Merci Yakuba.
Que la cérémonie des JO du 26 juillet saluée mondialement. Une majorité des 4 400 athlètes représentant 168 délégations ont défilé entre les Champs-Élysées et la place de la Concorde.
De nouveau avec vous, Rosine Monezero. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. L'armée congolaise et celle de l'Ouganda ont remis hier à la MONUSCO et à la société civile 49 otages qu'elles ont libérés il y a 6 mois des mains des rebelles ADF à Beni, dans la province du Nord Kivu. Eddie Isango a joint à Beni le porte-parole de l'armée congolaise dans la région, le lieutenant-colonel Mac Hazukai.
Ce sont des ex-otages que nous avons délivrés de mains de l'ennemi lors de différents affrontements. Parmi ces gens-là, nous avons enregistré des femmes enceintes, des enfants, mais aussi des jeunes gens. Et comme nous sommes une armée régulière, une armée qui est associée à toutes les résolutions relatives aux droits de l'homme, y compris l'UPDF, bien sûr, nous respecterons tout ce qui est le règle des droits de l'homme. Ils étaient au nombre de 49 ex-otages des ADF, dont 4 combattants Maïmaï que nous avons également soustrait des rangs des groupes armés.
Pourquoi avoir attendu 6 mois après les avoir délivrés pour les remettre à la MONUSCO et à la société civile?
Mais écoutez, c'est des gens qui ont passé beaucoup de temps dans la forêt avec l'ennemi. Donc il était important que les services puissent examiner cas par cas et voir quel rôle jouait chacun de ces gens-là dans les rangs de l'ennemi. On a compris que il y a pas de combattants. La plupart sont des dépendants et des enfants. Donc ils n'avaient pas d'une manière régulière touché à l'arme. C'est aussi qu'on a décidé de remettre les enfants à la MONUSCO qui va les orienter dans une structure que nous connaissons. Et les adultes, nous les avons mis à la disposition de la société civile qui pilote également une structure appelée Ukweli Defection Committee. C'est une structure qui encourage la défection parce que les informations nous parvenues de cette forêt renseignent que l'ennemi intimide ce combattant, disant que si vous vous rendez, la population va vous tuer, avec le phénomène de la justice populaire que nous connaissons de temps en temps, ou bien si vous vous rendez, les FADC vont vous emprisonner ou bien vous tuer. Et Ukweli Defection Committee est en train de sensibiliser la population pour bannir la justice populaire. Donc c'est ce que nous avons fait.
Et cela voudrait-il dire que les opérations conjointes entre l'armée congolaise et ougandaise continuent en dépit du fait que le président de la République démocratique du Congo et les autorités ont dénoncé une certaine hypocrisie de la part des autorités ougandaises et de l'armée de ces pays, l'Ouganda?
Je suis très mal placé pour commenter ce que vous venez de dire. Moi, je suis chargé de la communication et sensibilisation des opérations Sokola et Grand Nord. Je vous dis ce que nous faisons sur le terrain avec l'UPDF. Et les résultats, c'est ce que nous avons montré à l'opinion.
Le lieutenant-colonel Mac Hazukai, porte-parole de l'armée congolaise dans la province du Nord Kivu.
VOA Afrique, votre rendez-vous quotidien à Kisangani sur 97.7 FM.
En Côte d'Ivoire, l'effondrement d'immeubles a connu un pic ces 2 derniers mois à Abidjan, la capitale économique. Une 10aine de morts ont déjà été enregistrées à cause de ce phénomène. Le point avec notre correspondant sur place, Ange Bijou Nomenyo.
Dans cette mosquée de la commune de Kokodi, à Akwido, 8 personnes ont trouvé la mort. Une dalle de béton est littéralement tombée sur eux pendant la prière. Les sapeurs-pompiers, arrivés sur les lieux, n'ont pu rien faire pour les sauver. Moussa Sangari, imam à la mosquée Atié d'Akwedo.
Les jeudis sont passés, on a prié 16 heures. Le 16 heures, c'est 4 rakas. On a fait 3 rakas. 4e rakas, je fais sigur, et c'est là que j'ai entendu bruit, quelque chose qui a tombé. Mais moi, je pense que c'est le kama qui est en haut, là, qui a coupé pour tomber. C'est pas que c'est le mosquée qui a tombé. Et moi-même, j'étais traumatisé. Je vois pas la route pour sortir. Et Dieu m'a montré la route. J'ai fait 4 pas pour sortir à la mosquée. Il y a dalle, 3 dalles. Le premier dalle qui est en haut, il a venu tomber. 2e dalle. Et puis, il a venu aussi. Le dernier dalle qui est en bas. Et tous ces 3 dalles-là tombent sur les gens.
Le 5 juin dernier, toujours dans la commune de Kokodi, un immeuble de 3 étages s'est effondré, faisant plusieurs blessés et un mort. Des travaux de construction ont perforé un trou à côté de l'immeuble, causant son affaissement. Pour de nombreux experts, plusieurs failles ont été enregistrées pendant la phase de conception. Jean Barder Kwadio Kofi Kwadio, ingénieur en génie civil et en bâtiment.
Je pense que la raison, de manière générale, c'est le non-respect des procédures de cette démarche qui doit être pointillée, qui doit être respectée scrupuleusement, qui n'est pas respectée. il n'y a pas toujours ce qu'on constate, ça et là. Or, je l'ai dit plus haut, ce qu'on recherche dans un projet, à la fin, c'est la sécurité, c'est le confort et aussi la durabilité.
Le même phénomène a eu lieu dans la commune d'Adjamé, où un immeuble s'est complètement écroulé. Aucun mort n'a été recensé, mais les responsables du projet ont été interpellés par l'État. Les experts de la construction sont unanimes sur le sujet. Ils pointent du doigt un manque de professionnalisme sur des détails importants. Akuto Akpedi-Rolande Konou, architecte urbaniste.
La mise en œuvre de la conception, donc des plans faits par les ingénieurs, l'architecte, les dessinateurs techniques. Et peut-être que cette mise en œuvre n'a pas respecté les normes prévues par la conception. Il y a aussi possibilité de défaut d'équipement. Il peut y avoir aussi des défauts de qualité des matériaux utilisés pour la construction du terrain. On peut aussi prendre en compte la géotechnique, donc l'étude du sol. Peut-être que cela n'a pas été adéquatement faite.
Abidjan, en pleine croissance démographique et économique, connaît une explosion des constructions ces dernières années, parfois sans autorisation légale. Plusieurs mesures ont été adoptées pour renforcer la surveillance des bâtiments, notamment la mise en place d'une brigade de contrôle, mais le phénomène persiste. Ange Bijounomayan pour VOA Afrique, Abidjan.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, c'est bien sûr VOA Afrique, 24h sur 24.
Des chercheurs africains s'inquiètent de la résistance des parasites du paludisme aux médicaments. Une équipe de spécialistes réunie au sein du réseau africain pour la diversité génomique des agents pathogènes PDNA travaille sur la question. Ils étudient la diversité génétique des agents pathogènes dans différentes zones éco-épidémiologiques d'Afrique subsaharienne dans le but primordial d'éclairer les stratégies de contrôle et d'élimination des maladies. Professeur Abdoulaye Dindé, chercheur sur le paludisme basé au Mali et président du PDNA, joint par Alexandrine Hollognon, il explique pourquoi il est important de mener des recherches sur le paludisme.
En ce moment, le problème de la résistance aux médicaments antipaludique est un problème récurrent. Et chaque fois que les scientifiques réussissent à trouver des médicaments, au bout d'un certain nombre d'années, les parasites développent la résistance et on est confronté à un besoin de trouver de nouveaux médicaments. Avec les derniers antipaludiques, les dérivés de l'artémisinine qui constituent la base du traitement du paludisme, que ce soit le paludisme non compliqué ou le paludisme compliqué. Avec le paludisme non compliqué, les dérivés de l'artémisinine sont associés à une molécule partenaire sous la forme d'une combinaison thérapeutique à base d'artémisinine. La résistance a commencé en Asie et il y a quelques années, nous avons commencé à constater des baisses de sensibilité au niveau de certains pays de l'Afrique de l'Est et aussi de la Corne de l'Afrique. Pour le moment, l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest ne sont pas encore concernées, mais historiquement, quand la résistance commence, elle tend à se propager et c'est ça qui fait l'objet d'inquiétudes maintenant par rapport à la prise en charge du paludisme.
Pour expliquer avec des termes simples ce que ça veut dire résistance, l'efficacité de l'antipaludique face au traitement, est-ce que cette efficacité baisse ?
Voilà, la résistance, c'est quand nous consommons les médicaments qui normalement devraient tuer les parasites et que ces parasites ne sont plus tués par les doses de médicaments que nous prenons. Dans le cas des dérivés de l'artémisinine en Afrique, nous sommes à ce que l'Organisation mondiale de la santé appelle une résistance partielle parce que on n'a pas encore atteint l'étape où les médicaments ne réussissent pas à tuer les parasites. Ce qu'il se passe actuellement, c'est que le temps que le médicament prend pour tuer les parasites est en train de se prolonger.
Quelles sont les stratégies actuellement utilisées pour détecter et suivre la résistance aux antipaludiques ?
C'est justement à ce niveau que des réseaux comme notre réseau PDNA jouent un rôle important parce que à ce stade, l'outil le plus couramment utilisé, c'est la génomique. C'est donc explorer l'ADN, le matériel génétique du parasite pour détecter des changements génétiques. Et ce sont ces changements génétiques qui nous permettent d'avoir une idée sur la présence ou non de cette résistance partielle.
Professeur Abdoulaye Djindé, chercheur sur le paludisme basé au Mali et président du PDNA.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Idé Oumarou Jabirou, 24 ans, dit avoir toujours rêvé de se frayer un chemin vers les Jeux paralympiques de Paris 2024. Son bras gauche amputé n'a pas été un obstacle. Le reporter de VOA Afrique, Bourema Balima, nous raconte l'histoire du jeune athlète depuis Niamey au Niger. Récit Thierry Kaoré.
Idé Oumarou Jabirou a grandi en imitant d'autres athlètes d'arts martiaux, mais n'a jamais imaginé pratiquer les arts martiaux comme la plupart des jeunes de son âge. Il croyait toutefois dans son fort intérieur qu'un jour, il se ferait son propre chemin vers les Jeux Olympiques de Paris 2024 qui vont se dérouler du 28 août au 8 septembre. Jabirou dit qu'il a cru son grand-père qui ne cessait de lui dire de ne pas voir son bras gauche amputé comme un obstacle.
Quand j'étais petit, moi j'ai pratiqué le foot. C'est le foot qui me plaît beaucoup. Parce que ma première compétition à l'extérieur, c'était en Turquie. Lorsque j'étais en Turquie, les gens pensaient que je suis parti faire le foot. Mais malheureusement, c'est le taekwondo qui a pris tout.
L'oncle de sa mère, Mamadou Souley, que Jabirou appelle son grand-père, dit qu'il a vu quelque chose de spécial en lui.
Comme c'est mon petit neveu, donc c'est pour cela que je l'ai appelé et pour l'amener au taekwondo.
Jabirou est premier athlète paralympique du Niger à concourir en taekwondo. Il attribue son succès à son grand-père qui était son premier entraîneur. Il appelle Papa Cho en référence à l'entraîneur olympique du Niger, le grand maître Nyong Kun Cho.
Les personnes qui m'ont aidé pour arriver à ce niveau sont nombreuses. Mais je vais citer le premier personne qui m'a... C'est maître Cho.
Son père, Idé Oumarou, dit que la discipline de son fils est remarquable.
Jabirou avait 8 ans quand il a eu un accident et sa main a été amputée. Après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires, il a rejoint le club de maître Tidjani, le frère de sa grand-mère maternelle. Dès qu'il est entré dans la discipline, nous avons remarqué qu'il était vraiment motivé et par la grâce de Dieu, il est arrivé à ce stade. Je n'ai pas pensé qu'il pourrait atteindre ce niveau. Depuis son départ, nous recevons régulièrement ses appels. Maintenant, nous lui souhaitons bonne chance. Nous prions pour lui tous les jours.
Son entraîneur, Abdourahmane Issaka Yaou, dit qu'il s'est qualifié dans la catégorie K44 des hommes de 70 kilos, qui comprend les athlètes avec une amputation unilatérale du bras ou une perte de fonction équivalente ou une perte des orteils.
C'était contre le Malien, où il avait gagné par KO. Il a mis le Malien KO, où il a porté la victoire par un score de 12 à 24.
Jabirou dit qu'il n'a pas pu contenir son excitation au moment où il a réalisé qu'il pouvait porter son rêve sur la scène mondiale.
Moi, mon objectif, c'est pas de participer pour participer. C'est de participer pour faire retentir notre hymne national et l'hymne national du Niger. Je vais me donner un coup pour pouvoir amener cette médaille paralympique.
En tout cas, sa mère, Rakia Lawali, a confiance et prie pour que son fils gagne. La participation de Jabirou aux Jeux paralympiques de Paris 2024 sera suivie de près par tous ses fans. En tant que jeune Nigérien handicapé qui s'engage dans le sport de haut niveau, sa réussite restera une source de fierté pour son pays.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Voilà, c'est tout pour cette édition du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Rosine Moulezelo à son micro, à la mise en onde, Firmin Koyawida. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de VOA Afrique. Au revoir.